Groenland.
Bah, on dit qu'on touche pas à une terre quand c'est pas la sienne. Donc on dit à Trump de se détendre et d'arrêter, de provoquer tout le monde et de faire le mariole. Et que c'est une grosse menace là en fait, ce personnage et cette ambiance actuelle.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire. Et aujourd'hui, on va zoomer sur un pays dont on parle beaucoup, surtout Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef trumpiste, qui depuis quelques jours fait les 100 pas dans le bureau avec sa casquette MAGA en s'exclamant au téléphone « Yes Donald, you're right, we need Groenland, you have my full support !» Oui, comme Cyril nous a demandé 40 fois qu'on lui trouve le 06 de Donald Trump, on a fini par acheter un téléphone prépayé. Et depuis, c'est Courade, notre rédacteur en chef adjoint qui fait semblant d'être Donald Trump à l'autre bout du fil, une technique qui permet de calmer Cyril, ou du moins d'orienter positivement toute cette énergie qu'il a en lui depuis l'élection de son chouchou. Vous l'aurez compris, Cyril fait partie de ces gens qui trouvent tout à fait légitimes les vues du président américain sur le Groenland. Je le cite, 50 000 pecnos sur 2 millions de kilomètres carrés, ça fait 0,03 pecnos au kilomètre carré. T'appelles peut-être ça un pays, moi j'appelle ça un gâchis. Nous allons débattre cet après-midi de cette question. Le Groenland, actuellement danois, mais dont la population n'est pas non plus hyper attachée au Danemark, peut-il se vendre aux États-Unis? Quel est le statut actuel de ce pays? Quel scénario se dessine? Le cas échéant, Cyril sera-t-il nommé, comme il l'espère, chef du Groenland par la Maison-Blanche? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Emmanuel H.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Emmanuel. Vous êtes économiste, adjoint scientifique à IFP Énergie Nouvelle, si je ne m'abuse. Également directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions relatives à la prospective énergétique et à l'économie des ressources naturelles. Vous êtes également diplômé en géopolitique et vous avez sorti en janvier une note intitulée « Donald Trump et le Groenland, une ambition géopolitique au-delà des ressources ». Vous allez donc tout nous expliquer sur ce qui se joue en ce moment autour du Groenland. Juste le temps de vous présenter mes sympathiques collègues, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Face à vous, Emmanuel, c'est un territoire qui fait l'objet de presque autant de spéculations que le Groenland. Là aussi, son statut est flou et personne n'est d'accord sur ce qu'il conviendrait d'y faire. Un vrai bouc, une moustache. Je vous présente le visage de Quentin Louis.
J'ai eu un problème de sabouille.
Un no man's land pour l'instant laissé en friche, mais qui un jour sera, à n'en pas douter, magnifique. Quentin, chaque après-midi, vous allez à la rencontre des passants avec ce bouc, dirait le facétieux Laurent de Lahousse, pour les faire réagir sur notre thème du jour. Alors, l'avenir du Groenland, ça les intéresse.
Ah, c'est bien simple, ils ne parlent que de ça, les gens, dans la rue. Et de mon bouc, évidemment. Le Groenland, c'est un endroit stratégique, les ressources sous la glace, la capitale, Trump, qui fait peur. On a parlé de cette île la plus grande du monde hors continent, dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
À vos côtés, Emmanuel, je ne sais pas si l'avenir du Groenland l'empêche de dormir, mais elle nous a dégoté une personnalité à suivre sur le sujet, n'est-ce pas, Manon?
La première ministre danoise qui s'oppose fermement à Donald Trump et qui veut sauver le Groenland de ses griffes.
Vers 16h30, quelles sont vos connaissances exactes concernant le Groenland? Qui dans l'équipe s'est renseigné en amont pour ne pas se ridiculiser dans le quiz consacré aujourd'hui aux petits secrets d'un grand pays? Je lis dans vos yeux vivement le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Ahmed Sparrow. Mais d'abord, Emmanuel H., petit point géographique, tout simple pour commencer. Le Groenland, c'est l'Europe ou c'est l'Amérique?
Alors c'est une excellente question parce que lorsque vous ouvrez un atlas, vous allez vous apercevoir que le Groenland, c'est rattaché à l'Amérique du Nord. Donc,
c'est plus proche.
Géographiquement, c'est très proche de l'Amérique du Nord. Et en termes de distance, hein, les côtes canadiennes, c'est 35 km. Le Danemark, c'est 3500 km. Donc, on pourrait véritablement dire que géographiquement, il est rattaché à l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Après, politiquement, depuis 1814, il est rattaché au Danemark.
Et culturellement aussi.
Culturellement, non, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même une proximité, notamment linguistique. Les habitants du Groenland, ils parlent l'anglais et la langue locale. C'est-à-dire qu'ils apprennent les deux. Donc, ça veut dire que culturellement, ils sont aussi proches, j'allais dire, de la culture américaine, mais aussi de la culture danoise. Mmh. Donc, on a un entre-deux, et c'est ça qui, peut-être, va susciter justement la convoitise.
Et dans ma petite introduction burlesque, je disais bêtement, parce que je l'ai lu quelque part, mais je ne sais plus où, mais peut-être dans Le Monde, je crois, j'ai lu que les Groenlandais n'étaient pas forcément attachés au Danemark. Est-ce que ça, c'est juste ou pas?
Alors, C'est pas qu'ils sont pas attachés, c'est qu'en tout cas, il y a un fort sentiment nationaliste qui s'est développé. D'accord. Il y a un fort sentiment indépendantiste.
D'accord.
Et notamment depuis 2021, où le parti au pouvoir, c'est un parti indépendantiste.
Si ça ne tenait qu'à lui, le Groenland serait déjà le 51e État américain. Comme il l'a encore confirmé à Donald Courade tout à l'heure au téléphone, son sac est prêt avec l'imodium, le drapeau, le piquet pour le planter et sa flûte à bec pour subjuguer les autochtones en leur jouant l'hymne américain, ce qui aura pour effet de les soumettre immédiatement. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à tous les Groenlandais.
Évidemment. Alors Cyril, racontez-nous, vous qui êtes penché sur cette question, ouais. Le Groenland, d'où ça sort ?
Détail étonnant, quand vous faites des recherches sur le Groenland dans Google, on vous suggère cette question, qui est le propriétaire du Groenland ? Imaginez qu'on trouve la même chose concernant la Corse ou même la Martinique. Alors, leur situation n'est pas tout à fait identique, mais c'est pour vous dire à quel point celle du Groenland est particulière. Le Groenland, je l'ai découvert en préparant cette émission, est un pays constitutif. Et qu'est-ce qu'un pays constitutif ? Je vous lis la définition. Une subdivision territoriale reconnue comme un pays non indépendant qui fait partie d'une entité plus vaste, l'entité en question, c'est le Danemark. Le Groenland est donc autonome, mais constitutif du royaume du Danemark. Il n'est pas, à proprement parler, un territoire de l'Union européenne, mais les Groenlandais sont bien des citoyens européens. Vous voyez un peu le bazar.
Effectivement, je vois le bazar. Et qu'est-ce qui explique les tensions entre les États-Unis et le Danemark ?
Elles sont nombreuses, on va en parler durant cette émission. Il y a déjà la situation géographique, on a commencé à l'effleurer. Le Groenland est situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Quand vous regardez une map monde, c'est le gros morceau de terre situé tout en haut de la carte. Eh bien, cet emplacement est stratégique pour le contrôle des routes maritimes et aériennes dans l'Arctique. Autre chose, les Américains y ont installé une base militaire pour de la surveillance et leur défense aérospatiale. Et puis, bien sûr, il y a les richesses naturelles, minéraux, gaz, pétrole, bref, de quoi être une proie très convoitée. Alors, jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour s'emparer du Groenland ? Comment le Danemark peut-il résister ? Qu'en pensent les 57 000 habitants du pays ? Et pourquoi, tout simplement, le Groenland ne serait pas indépendant ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Si on m'avait dit un jour qu'un individu qui confond allègrement le Danemark, la Suède et la Norvège serait capable de livrer une présentation aussi détaillée du Groenland, je ne l'aurais jamais cru. Merci Cyril pour ce bel effort. Emmanuel H. Cyril a rapidement évoqué les raisons pour lesquelles le Groenland est aujourd'hui aussi convoité. Les minerais, ça, c'est vraiment la raison principale ?
Alors, ce n'est pas la raison principale, parce que la raison principale, à mon sens, c'est quand même des raisons de sécurité. Hein. C'est très stratégique, la position du Groenland, notamment avec la base de Pitufik, hein, qui se trouve au nord-ouest du Groenland. Mais il y a aussi des minerais, effectivement, parce que, tout simplement, au Groenland, on pourrait trouver potentiellement, je dis potentiellement, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a deux mines qui sont en activité. On produit un peu de rubis, un peu d'or, c'est-à-dire pas véritablement ce qui est stratégique, notamment pour les transition bas carbone et numérique, mais potentiellement, il y a du pétrole, potentiellement, il y a du gaz, et potentiellement, il y a des terres rares. Et donc ça, c'est véritablement un attrait majeur, notamment pour ceux qui voudraient aller extraire sur le territoire.
Mais je vous écoute, ça pourrait être un nouvel Eldorado. Vous dites potentiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas précisément quelles sont les réserves pétrolières de... Personne ne s'est penché là-dessus, du Groenland.
Alors, on sait en partie pourquoi, parce que notamment sur le cas du pétrole, depuis que le Premier ministre indépendantiste et écologique est arrivé au pouvoir, il a interdit l'exploration pétrolière. Donc on ne peut plus aller explorer le territoire. C'est la même chose pour l'uranium. Et pour les autres minerais, on a de l'exploration, mais on a très très peu de développement. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire des forages, on va regarder s'il y a du potentiel, mais on ne sait pas si économiquement ça va être intéressant, et puis si environnementalement, on ne va pas avoir des impacts importants. Et je rajoute une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, le territoire il est recouvert à 80% de glace. Oui. Donc on est dans des conditions qui sont quand même plutôt atypiques en termes de développement minier. Et donc ça renforce l'idée qu'il y a un potentiel, mais en termes de développement, on n'en est pas encore là.
Et si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, il n'y a pas que les Groenlandais qui exploitent leur sous-sol, il y a aussi les Américains.
Alors, il y a très très peu d'entreprises. À l'heure actuelle, il y a des entreprises australiennes, il y a des Canadiens. Il y a des entreprises du Royaume-Uni et il doit y avoir quelques entreprises groenlandaises, mais c'est véritablement très très peu par rapport au potentiel, encore une fois, qui est affirmé.
Et est-ce qu'on peut imaginer qu'avec le réchauffement climatique, le Groenland, de par sa position, devienne une terre plus intéressante, une terre fertile, un refuge possible ?
Alors, c'est un peu l'idée de Trump. Hein. L'idée de Trump, c'est véritablement d'avoir à disposition un territoire dans lequel il pourrait aller forer, il pourrait aller exploiter des minerais. Ça éviterait notamment d'aller exploiter des minerais aux États-Unis même. Hein. C'est une forme d'impérialisme extractiviste.
Oui, parce qu'ils en ont assez quand même.
Alors, les États-Unis, c'est un grand pays minier, hein, mais ouais. Je vous donne un exemple sur les terres rares. Les terres rares, c'est en gros tout ce qui fait la téléphonie, tout ce qui fait les aimants permanents. Donc, on a vraiment besoin pour les transitions en cours. Aux États-Unis, on a en gros des réserves estimées à 1,9 million de terres rares. Au Groenland, il y en a 1,5 million et potentiellement, il y en a 10 millions. Donc, ça veut dire...
C'est énorme le potentiel.
Voilà. Et surtout, c'est que les terres rares, c'est... potentiellement très impactant pour l'environnement. Donc, vaut mieux aller le faire chez les autres.
Bien sûr, c'est plus facile.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Pourquoi le Groenland est-il si convoité? C'est la question qu'on pose à l'économiste et adjoint scientifique à IFP Énergie Nouvelle, Emmanuel H. cet après-midi. Emmanuel, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'en fait, les États-Unis avaient déjà tenté d'acheter le Groenland au Danemark en 1867, en 1910, en 1946, et Trump déjà avait fait une offre en 2019. Pourquoi vouloir à tout prix acheter ce territoire? Et pourquoi le Danemark n'a jamais cédé?
Alors, pourquoi l'acheter? Tout simplement parce que... donc, on en a parlé, il y a des ressources minérales. Mais il y a aussi la volonté de Trump de contrôler les routes, et notamment les routes arctiques. Ça, c'est véritablement une raison assez fondamentale aujourd'hui. Et notamment, pourquoi? Parce que les deux, j'allais dire, hégémons qu'il a en face de lui, c'est la Chine et c'est la Russie. Et donc, bien évidemment, il y a aussi cette volonté d'éviter que le Groenland ne tombe dans les mains, notamment de ces deux pays.
Qui ont aussi des vues dessus sans le dire aussi ouvertement.
Alors oui, ils ne le disent pas aussi ouvertement, mais la Russie notamment a beaucoup renforcé, son industrie, mais en tout cas tout ce qui est équipement, brise-glace sur les routes polaires. La Chine a également essayé d'investir de manière assez importante, notamment elle a voulu investir dans le domaine minier en 2021, et c'est ce qui a d'ailleurs, il y a un lien avec l'élection de 2021, parce que l'élection de 2021 s'est jouée justement sur est-ce qu'on veut ou pas que la Chine développe une mine de terres rares et du terrien. Et la réponse a été non. Et du coup, acheter le Groenland, c'est une manière pour Trump, de marquer son époque, parce que chaque président américain a un petit peu sa lubie. Trump, c'est, on l'espère, son dernier mandat. Et surtout, Trump, ce qui est très intéressant, vu que c'est son dernier mandat, il a envie de marquer l'histoire. Et comment ne pas mieux marquer l'histoire
que géographiquement.
Eh bien, géographiquement, vous allez élargir le territoire américain.
Mais combien ça coûte, le Groenland?
Alors ça, c'est un prix. C'est une vraie question.
Vous voulez vous positionner, Quentin?
Non, je ne pourrais pas là.
C'est une vraie question. Pourquoi? Parce que la dernière offre en 1946, ça doit être 100 millions, je crois.
Ah, 100 millions de 1946?
Alors, c'était 100 millions de 1946. Alors, j'avoue, je n'ai pas refait les calculs de ce que ça ferait comme prix aujourd'hui. Après, vous pouvez vous dire, le PIB du Groenland, le produit intérieur brut, c'est 3 milliards. Mais on peut aussi se dire, la valeur du Groenland, c'est aussi la valeur de ses ressources qu'on n'a pas encore développées. Et donc, c'est un tout petit peu compliqué. Après, on peut faire la marche arrière et on peut se dire, mais quel prix on met à la souveraineté?
Déjà.
Et puis, dernier point, quel prix on met à ne pas extraire dans des endroits qui sont fondamentalement naturels. Donc, ça veut dire qu'en termes d'estimation, je suis désolé, je ne vais pas vous donner
de prix. Vous n'aurez pas de prix.
Un peu trop cher pour vous.
Manon.
On en parlait tout à l'heure, mais l'armée américaine est déjà présente au Groenland. Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut revenir sur ces bases militaires qui se sont créées?
Alors, historiquement, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter que les soldats allemands envahissent le Groenland, il y a eu une base américaine qui a été créée là-bas, qui devait s'appeler West Blue One, quelque chose comme ça, où en gros, on a positionné à la fois des troupes et puis un petit peu de matériel aéroporté pour éviter en gros que l'Allemagne nazie envahisse le territoire. Et puis, on a construit après, à la fin de la guerre, en fait, une base qui s'appelle Pitufik, qui s'appelle aussi Tulé, il y a les deux noms qui peuvent être utilisés. Là, elle est située au nord-ouest. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est véritablement la base qui constitue l'architecture stratégique des États-Unis, notamment vis-à-vis de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire que si nos amis russes ou nos amis chinois avaient la bonne idée d'envoyer des missiles balistiques intercontinentaux sur les États-Unis, la distance la plus courte passe dans ce coin-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça permet d'alerter. Et puis, ça permet de réagir assez rapidement. Donc, c'est pour ça que, vraiment, le Groenland, au tout premier abord, c'est stratégique en termes de sécurité nationale.
Le Premier ministre du Groenland, il a promis début janvier des avancées vers une indépendance du territoire dès cette année. Alors ça, il faut le voir comment? Il faut le lire comme une aubaine pour Trump? Ou comme, tout simplement, que le pays va vers l'indépendance?
Alors, c'est Ma réponse, ça va être un petit peu double. Pourquoi ? Parce que l'indépendance, ça veut dire quoi ? Il va y avoir potentiellement un référendum en avril 2025. L'indépendance, ça peut vouloir dire, effectivement, le Groenland est indépendant, notamment du Danemark, et donc ils vont pouvoir choisir. Or, le parti qui est au pouvoir actuellement, il est fondamentalement anti-extraction. Donc, ça veut dire... Bah, il va falloir qu'ils trouvent quand même des moyens pour subvenir à l'indépendance du pays. Or, quand vous regardez le produit intérieur brut du Groenland, c'est quoi ? C'est de la pêche. Hein, 95% des exportations, en gros, c'est de la pêche. Il y a un peu de tourisme. Ils aimeraient bien développer le tourisme, mais en fait, ils n'y arrivent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que les conditions climatiques, c'est quand même pas non plus quelque chose d'assez formidable. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils trouvent des ressources. Et... Bah, qui de mieux que d'aller trouver des ressources vers des pays qui veulent venir vous racheter ? Le problème, c'est que Trump, lui, il veut aller développer, il veut aller sacrifier le territoire.
Oui, c'est ça.
Donc là, il y a une contradiction véritablement fondamentale entre, en gros, ce que voudrait Trump, ce que veulent les indépendantistes et ce qui va pouvoir se réaliser.
Pour ce micro-trottoir à venir, Quentin avait de grandes ambitions. Il voulait aller interroger les passants directement au Groenland. Oui. C'était votre ambition. Puis après, vous êtes souvenu de l'augmentation que vous avez eue pour présenter l'émission quand j'étais absent.
Voilà.
Et vous avez compris que le budget ne serait clairement pas là pour aller jusqu'au Groenland. C'est donc dans les rues de Paris que vous êtes allé poser la question aux passants.
La rue, Mathieu, qui reste d'ailleurs le plus merveilleux des voyages. Ces deux étudiantes chantent quand je m'approche d'elles avec mon micro.
Quel jour celui qu'on retient, celui qui s'efface.
Bonjour.
Pourquoi vous chantez Louane ?
Parce qu'on aime Louane.
Vous savez ce qu'elle va faire, Louane, là ?
Non.
Elle va faire quoi ?
L'Eurovision.
Mais non ! Félicitations, Louane ! On est en direct sur Sky...
France Inter.
France Inter.
Voilà, bienvenue sur Inter.
Sur Sky Inter.
Elle découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Le Groenland.
Groenland.
Ça se réchauffe, là-bas ?
Attends, c'est quoi, déjà, le Groenland ?
C'est pas à côté de l'Antarctique ?
Quoi ?
Antarctique, non.
Ah, tu regardes sur Google Maps ?
Mais quand j'ai tapé Groenland, j'ai vu Trump.
Oui, et c'est dans l'Arctique. Alors voilà, on est sur la bonne direction. Intéressant de voir ces jeunes étudiantes découvrir l'actualité.
Ok, il veut prendre le contrôle de l'île, quoi. Il veut, voilà, il veut du territoire. Donc, comme à la guerre, quoi. Il veut conquérir de plus en plus de nations, en fait. 10 000 limites à un dictateur, ce mec.
Ambre, elle, marche les mains dans les poches, un manteau de fausse fourrure, une casquette rétro style Gavroche.
Ah, oh mon Dieu. Le Groenland, quelle angoisse. Parce que ça fait partie des sujets qui sont compliqués dans l'actualité en ce moment. Et c'est d'autant plus important parce que je sais qu'il y a beaucoup de stations aussi météorologiques en termes de recherche. J'ai aussi entendu parler du Groenland dans ce sens pour les calottes sur les sujets de réchauffement climatique. Et je trouve ça d'autant plus inquiétant qu'ils soient intéressés par un espace aussi important pour déterminer...
Le symbole est
frappant.
Et elle a raison, de nombreux climatologues, glaciologues, océanographes travaillent dans ce laboratoire à ciel ouvert. La calotte glaciaire, par exemple, du Groenland est l'un des principaux indicateurs du changement climatique. Alors la laisser aux mains du 47e président des États-Unis qui a quitté les accords de Paris quelques heures après son investiture, bah, ça fait forcément craindre le pire. Lui, il s'appelle Pierre, il est juriste, il a la petite trentaine.
Le Groenland, parce que Trump a, comment Trump souhaite, je sais pas, annexer le Groenland, racheter le Groenland, je sais pas ce qu'il veut faire en fait.
Ça s'achète un pays ?
Bah non, mais c'est toute la question, mais c'est là où même renommer le golfe du Mexique, d'où, comment c'est possible ? Prendre la propriété du canal de Panama, en fait je pense qu'il pratique le plus c'est gros, plus ça passe quoi.
Ouais, et ça passe de plus en plus, mais jusqu'où ? Cécile a 45 ans, elle écoute un podcast quand je l'arrête dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Je travaille dans une ONG environnementale.
Trop bien.
Ouais.
Ok. Bah,
les temps sont durs là quand même.
Je vous confirme.
Oui, et notre thème du jour ne va rien arranger.
Groenland. Okay. Bah, on dit qu'on ne touche pas à une terre quand ce n'est pas la sienne, donc on dit à Trump de se détendre et d'arrêter, de provoquer tout le monde et de faire le mariole. Et que c'est une grosse menace, là, en fait, ce personnage et cette ambiance actuelle. On peut au moins se positionner de manière très ferme par rapport à ça, au niveau européen et en France. On peut aussi éviter, les gens qui sont au pouvoir en ce moment, on peut aussi éviter cette dérive. Donc, j'ai envie de dire, on se sort les doigts du cul et puis on arrête de faire n'importe quoi. Voilà ce que je pense. Désolée, j'étais vulgaire, hein, mais voilà.
Bon, un tout petit peu. Mais alors, la France et l'Union Européenne peuvent-elles dire stop et être plus fermes ? Ma dernière rencontre, c'est ce garçon qui, avant de s'engouffrer dans le métro, me prend en photo avec son iPad.
Bonjour !
Pourquoi vous m'avez pris en photo ?
Parce que j'adore France Inter, et j'ai des copains qui travaillent au service de l'audiovisuel public français aussi.
Ouais, les amis de l'ERTF, bien sûr, on les connaît bien. Dernière réaction sur...
Le Groenland. Oui, pour des ressources minières et pour, je crois aussi, des voies de passage naval, maritime. Oui. Ouais, c'est ça. Et ils ont sondé la population du Groenland, qui, je crois, à 80 et quelques pourcents, était contre...
Oui, 85%. Ça fait quand même 15% qui disent oui au fait que Trump envahisse l'île. Mais alors pourquoi on en arrive là ?
Bah, je pense que, quelque part, depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, les dirigeants, même des grandes démocraties occidentales, se sentent pousser des ailes quand il s'agit d'acquérir des territoires par la force, en fait. Ils vont se retrouver face à assez peu de résistance. C'est une toute petite population par rapport à la surface.
Oui. 56 000 habitants.
D'accord.
Oui, je lui apprends même que la capitale ne compte que 19 000 habitants. Capitale qui s'écrit N-U-U-K.
Nuuk. Nuuk. Ouais. Nuuk. Ça porte bien son nom.
Pourquoi ?
Bah parce que peut-être que... Peut-être que la Troisième Guerre mondiale commencera par une nuke, justement, un missile nucléaire lancé dans la région, je sais pas.
T'as l'impression qu'on va, on se dirige vers ça ?
Oui, oui, on se fait pas trop d'illusions, quoi. Profitons du temps qui nous reste.
Voilà, alors il y a eu des dimanches plus sympas que d'autres hein, quand j'ai fait ce micro-trottoir, mais ce pont aérien entre les États-Unis et l'Europe pourrait-il mettre de l'huile sur le feu, un feu qui est déjà bien en forme. Je préférais quand même ma théorie de l'enfance quand je pensais que le Groenland était le vrai pays de Groland.
Ah, oh, ça c'est mignon.
C'est vrai.
Oh. C'est rafraîchissant, bah cette ouais. petite anecdote, Quentin. Emmanuel H., vous entendez le pessimisme de cette dernière réaction. Est-ce que ça pourrait, cette histoire de Groenland, des vues impérialistes de Trump sur le Groenland, est-ce que ça pourrait déboucher sur un conflit mondial, finalement ?
Alors, peut-être pas un conflit mondial, mais on voit qu'on est dans une ère où les empires, ou en tout cas une nouvelle forme d'impérialisme, on l'a vu avec Poutine en Ukraine, on le voit avec les volontés de Xi Jinping, notamment sur Taïwan, Trump avec le Groenland, Trump avec le Canada, Trump avec Panama, on pourrait multiplier les exemples.
Trump avec la bande de Gaza maintenant. Hein,
effectivement, le dernier en date, c'est celui-là, effectivement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des comportements qui ne sont pas forcément rationnels par rapport à tout ce qu'on a connu en fait, au niveau des relations internationales depuis une cinquantaine d'années. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rentre dans une diplomatie, j'allais dire, du coup de poing, du coup de force, du masculinisme, quelque part, je pense, parce qu'il y a aussi cette notion-là derrière le vocabulaire qui est utilisé par Trump, notamment quand il dit qu'il va prendre le Groenland. Hein, on a l'image. Ouais. Je suis désolé, surtout qu'il a déjà eu l'image avec une femme.
Oui.
Donc, on a véritablement cette volonté de reconstituer des empires et d'aller pas forcément au conflit, mais en tout cas de montrer qu'on est fort. Et ça pose notamment un problème, notamment à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne n'a absolument pas cette posture.
Non, oui, clairement.
Ambre, qui nous parle de l'importance des scientifiques sur place, sur la calotte glaciaire pour observer le réchauffement climatique. Trump, qui vient de quitter les accords de Paris, pourrait s'opposer à ces recherches, mettre dehors les scientifiques ?
Ah ben non, pour le moment, il a aucun poids sur,
mais si jamais...
sur les scientifiques. Alors,
serait sa terre, finalement.
Alors, potentiellement, oui. Si. Alors là, il faut qu'il y ait une annexion. Enfin, on est dans un scénario quand même, à mon sens, un peu incertain. Pourquoi ? Parce que, quelque part, ce que souhaite Trump, c'est beaucoup d'exubérance. Pourquoi ? C'est que potentiellement, ce qu'il veut, c'est qu'une fois que... potentiellement, on a une possibilité d'extraire des ressources, que ce soit tout simplement l'industrie américaine, qui aille forer, oui, exploiter voilà. et ramener les matières premières sur le territoire américain. Il ne faut pas non plus prendre Trump au mot. Hein. Regardez ce qu'il a fait sur les négociations commerciales. Le lundi, c'est ouais. 25% pour le Canada. Mmh. Et puis le mardi, en fait, on dit non, finalement, ça sera le mois prochain. Mmh. Et pourquoi ? Parce que, notamment sur ce cas-là, c'est extraordinaire. Il s'est peut-être rendu compte que le premier fournisseur de pétrole aux États-Unis, eh ben, c'est le Canada.
Manon.
Il faut le préciser, on l'a entendu aussi, mais le Groenland, il y a quand même des contraintes de vie là-bas. Il fait très très froid, etc. Comment vivent les Groenlandais aujourd'hui ?
Ah bah ils vivent 6 mois de nuit et 6 mois de jour hein, déjà.
Déjà,
donc, c'est déjà une vraie contrainte, vous voyez. Après, ce qu'il faut voir, c'est que il y a 56 000 habitants. Il y a quand même, si je ne m'abuse, je crois que c'est le taux de suicide l'un des plus élevés au monde. Hein. Donc on a quand même une population groenlandaise qui ne vit pas forcément très bien. Et en plus, il y a quelque chose qui est en train d'être agité depuis quelques années au Groenland. C'est le rôle du Danemark, notamment dans ce que certains Groenlandais appellent le génocide groenlandais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une période où on a essayé de stériliser des fans groenlandaises. Et donc, il y a un ressentiment très très fort envers la couronne du Danemark. Oui, à ce niveau-là, on peut les comprendre. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça que la population, vous parliez des 15%, les 15%, c'est peut-être plutôt pour se détacher du Danemark plutôt que d'aller s'attacher aux États-Unis.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Même si on se moque beaucoup des visées expansionnistes de Donald Trump, on l'a dit, ce n'est pas la première fois que les États-Unis s'immiscent dans les affaires du Groenland. En 2007, George W. Bush en personne avait convoqué celui qui était encore alors agent de la CIA, Cyril The Courier, pour lui confier une mission top secrète. Va voir, c'est chez fucking Penguins, s'ils n'ont pas des armes de destruction massive cachées dans leurs fucking igloos. Sir, yes sir, avait répondu Cyril, pour lui une mission ne se discute pas, elle s'exécute. Depuis, le Groenland n'a pas de secret pour lui, mais vous, jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte donc des secrets du Groenland. Nous sommes en 2007. Cyril est parachuté au-dessus de la capitale, Nuuk, ce qui l'excite considérablement car ça lui rappelle le nom du nouvel Esquimau double chocolat qui vient de sortir chez Nestlé. Il s'imagine déjà une ville toute en chocolat. Hélas, quand il pose pied à terre, il est très surpris de découvrir un pays intégralement recouvert d'arbres. C'est d'ailleurs pour ça que le Groenland s'appelle le Greenland, le pays vert. Intégralement dénué d'arbres ou intégralement en chocolat, conformément à ce qu'il imaginait.
B.
Maintenant, vous pensez qu'il y a beaucoup d'arbres au Groenland.
C'est
je pensais que le Groenland, c'est un pays vert, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il n'y a pas un seul arbre au Groenland. Réponse B. Le Groenland, qui est aussi la plus grande île du monde, a cette spécificité étonnante qu'on n'y trouve aucun arbre. Des arbustes, tout au plus, mais pas d'arbres. Super, comme ça, j'aurais pas besoin d'en planter, se dit Cyril, avant d'aller rencontrer, pour mieux comprendre la culture locale, le célèbre chef inuit Nukulik. Je crois que je préfère encore Eddie de Préto, se dit dans sa barbe Cyril, alors qu'une chorale l'accueille à l'entrée de l'igloo. Quelques heures plus tard, alors que la température corporelle de Cyril avoisine celle de notre open space mi-février, Nukulik, sentant son hôte proche de l'hypothermie, lui propose de se réchauffer avec un bon muktuk. Le regard de Cyril, qui comprend qu'il s'agit de nourriture, s'illumine. Selon vous, Manon Quentin, pourquoi son espoir va-t-il rapidement être douché? Parce que le muktuk, ou plutôt j'imagine le muktuk, c'est une tisane à l'urine de caribou, des céréales au rognon de phoque ou des sashimi de peau de baleine.
C'est
B. Pour vous, c'est des céréales au rognon de phoque. Vous savez, c'est vraiment vous, un gastronome, un gourmet. Réponse C, bon appétit, pas sûr. Habituellement consommé cru, le muktuk est parfois coupé en petits dés, pané, frit et servi avec de la sauce soja. Cyril a trouvé ça très bon. Mais partons à présent en 2027. Donald Trump vient de racheter le Groenland grâce à la crypto-monnaie Suck Donald Balls, lancée par Mark Zuckerberg. Crypto qui a augmenté de 10 000 % après que le président a signé un décret expulsant des États-Unis toutes les personnes possédant un QI supérieur à 67. Lassé de la lenteur du réchauffement climatique, Donald demande alors à Elon Musk de lui concevoir un sèche-cheveux géant pour accélérer la fonte de la banquise au Groenland, histoire qu'on voit mieux ce qu'il y a comme vrai terrain là-bas. D'après vous, si toute la banquise du Groenland venait à fondre, ce qui est en cours aussi avec le réchauffement climatique, quelles seraient les conséquences de la montée des eaux ? La submersion de Quentin Lui, qui culmine à 1m69.
Ça dépend où je suis.
La submersion, en général, de Victor Wembanyama, qui mesure 2m21. Ou l'engloutissement de Quentin, Wemby et Arnaud Duplantis, en train de battre son record du monde de soie à la perche à 6m26.
C'est, bah oui, de loin, bah oui. C'est
ça. Mais de loin bah peut-être, oui. Sauf que Manon a parlé plus vite. Réponse C. Rive, Quentin, Wemby et Arnaud. Car si toute la calotte glaciaire du Groenland fond, les océans monteront de 7 mètres. Je n'ai pas de questions relatives aux sèche-cheveux géants actuellement en développement dans les usines d'Elon Musk. Le projet est top secret. En revanche, j'ai une question bagnole. Quentin, vous pouvez peut-être vous refaire la cerise sur cette question. D'après vous, pourquoi le Groenland n'est pas un marché porteur pour Tesla? Parce qu'il n'y a pas de borne de recharge au Groenland. Parce que la totalité du réseau routier du Groenland est inférieure au trajet Pontocombo-Pithiviers. Ou parce qu'aucune batterie électrique n'est conçue pour affronter le froid polaire du Groenland.
Alors, il y a C.
A et C, peut-être.
B et C.
Si vous suiviez plus l'actualité automobile, vous sauriez que les batteries aujourd'hui peuvent résister à des froids, à des températures extrêmement négatives. Oui, Porsche a fait de très beaux essais dans ce sens-là.
Oui, d'accord. Pas tous les modèles, mais...
Alors, dites-nous. La A, pas de borne de recharge.
B et C.
Non, bah alors, non, vous êtes nuls. On me signale en régie que vous êtes tout simplement nuls. C'était uniquement la réponse B. Ah. Un réseau routier microscopique. Cyril nous le confirme en régie. Une honte, pas un seul Buffalo Grill sur l'autoroute. D'ailleurs, ils n'ont même pas d'autoroute. En revanche, soyons précis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de borne de recharge électrique au Groenland, puisqu'à l'heure où on se parle, il y en a 4, d'après le site ChargeMap. Il faut juste bien réfléchir à son voyage avant de se lancer.
Enfin, sur ChargeMap.
Oui, enfin plutôt Gérald Darmon, mon auteur, je l'embrasse. Enfin, on sait que le maître du monde à fond de teint a récemment mandaté Sylvester Stallone, Mel Gibson et John Voight pour reviriliser un Hollywood devenu trop wokiste, vous le savez. Je veux mon neveu, I want my nephew, s'exclame en régie Cyril, ce qui d'ailleurs en anglais débouche sur une phrase un peu ambiguë. Bref, on sait que Trump veut reviriliser Hollywood. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est le lien qu'il y a entre Hollywood et le Groenland. Puisqu'en effet, sans le Groenland, un énorme succès du box-office mondial n'aurait jamais vu le jour. S'agit-il d'Avatar de James Cameron, qui a eu l'idée de ce film de science-fiction écolo après avoir constaté la fonte de la banquise pendant le tournage du Titanic ? Ou le film Titanic lui-même, parce que des scientifiques ont déterminé que l'iceberg à l'origine du naufrage provenait du Groenland. Ou les bronzés font du ski, parce que c'est à cause de la fonte de la banquise que la neige elle est trop molle.
B, je suis devant.
C'est une bonne réponse. Alors je ne sais pas si vous... Oui, vous êtes devant. Bon, vous êtes devant, bravo Quentin.
Ça arrive de temps en temps.
Effectivement, en 2014, deux géographes britanniques ont modélisé la trajectoire de l'iceberg en se basant sur les conditions météo et courants de l'année 1912, déterminant ainsi que le bout de banquise responsable venait de la région de Pamiut, sur la côte sud-ouest du Groenland. Victoire de Manon Mariani. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais vous vous êtes bien battu.
Non, mais ça fait égalité, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils disent en
régie ? Merci à tous.
Écoutez, ça a été tranché.
Ça a été tranché.
En régie, ça a été tranché.
Égalité.
Dans le sens de Manon. On zoome sur le Groenland cet après-midi dans Zoom Zoom Zen, territoire convoité par Donald Trump. On est toujours avec l'économiste adjoint scientifique IFP Énergie Nouvelle et auteur aussi d'une note pour l'Iris intitulée Donald Trump et le Groenland, une ambition géopolitique au-delà des ressources. Emmanuel H. On en parlait tout à l'heure hors antenne entre nous, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. On parlait donc de... Une possibilité de racheter carrément le Groenland. Il y a 57 000 habitants au Groenland. Est-ce qu'on peut imaginer Donald Trump donner un petit coup de coude à son ami Elon Musk et dire faisons une offre aux gens, ils sont 57 000. Musk, il peut proposer 1 million par personne. C'est quelque chose qui est... C'est de la science-fiction ou on peut l'imaginer ?
Non, y a plus rien n'est de la, la science-fiction à notre époque. Hein. On le voit bien. Après, il y a peut-être une manière aussi de dépenser un tout petit peu moins, je pense. Il y a ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Vous avez quand même le meilleur ami de Donald Trump, c'est Elon Musk. Mmh. On sait qu'on peut faire basculer une élection avec, en gros, des personnes qui ne seraient pas forcément, qui seront un petit peu indécis. Et potentiellement, on peut commencer par là. Après, effectivement, on peut carrément aller acheter les gens et essayer, effectivement, quand on voit le PIB et quand on voit la faiblesse de la, enfin, le faible niveau de population, effectivement, ça coûterait pas si cher que ça.
Il pourrait tenter de passer en force aussi.
Alors passer en force, ça veut dire des moyens militaires. Ouais. Alors effectivement, il y en a déjà sur place, mais là, ça voudrait dire rentrer en conflit avec un membre de l'OTAN.
Oui, c'est quand même un peu compliqué.
Il y a quand même des limites à ne pas dépasser, même si Trump et l'OTAN, il y a un rapport un tout petit peu ambigu, voire très particulier, mais non.
On se moque un peu de Donald Trump qui veut comme ça se payer le Groenland, mais est-ce qu'on ne peut pas faire notre autocritique, nous les Européens, en se disant on ne s'est pas assez intéressé au Groenland, on n'a pas assez investi dans le Groenland, je ne sais pas, enfin, quand on voit le potentiel de ce territoire, on a peut-être été très naïf.
Alors on a été très naïf, et alors ce qui est très marrant, c'est qu'en 2019, quand il a fait sa première proposition de rachat, ça a réveillé la couronne du Danemark en se disant mais effectivement il faut qu'on fasse quelque chose pour le Groenland. Là à l'heure actuelle, on sent que ça veut bouger au niveau du Danemark, parce que effectivement ils ont pris conscience. L'Union européenne par exemple a pris conscience autour pareil 2019-2020. Ils ont tout simplement vu que potentiellement dans le sous-sol groenlandais, il y a 25 des minerais critiques de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en gros, on a à proximité géographique un territoire qui pourrait assurer, sécuriser les approvisionnements européens sur notamment les terres rares, le cuivre, le zinc. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à s'y intéresser. Ça,
mais il est encore temps ? Il n'est pas trop tard ?
Je pense qu'il est encore temps. Il est encore temps parce que encore une fois, l'Union européenne, notamment le Danemark, contribue au PIB et au budget du Groenland à hauteur de 30-35%. Donc ça veut dire que il faut aider au développement du territoire, tout en se disant très bien que un jour, de toute façon, le Groenland sera indépendant.
Mais le premier ministre groenlandais a déjà interdit l'exploitation de pétrole.
Oui.
Est-ce qu'il peut le faire pour les minerais? parce que là on dit on pourrait venir se servir l'Europe, l'Amérique, mais ils pourraient interdire.
Alors bien évidemment, c'est pas d'aller se servir hein, dans mon
oui,
propos, j'imagine. C'est pas d'aller extraire,
mais
on peut dire non et on peut essayer de proposer d'autres voies de développement pour le Groenland qui serait beaucoup plus basé notamment sur le tourisme encore une fois ou sur la culture locale hein. On n'est pas obligé d'aller extraire un tout petit peu partout pour se contenter.
Et ça sera enfin l'occasion de découvrir les sashimis de peau de baleine. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Manon, vous nous faites découvrir l'autre personne à suivre.
Je vous présente Mette Frederiksen. Elle a 47 ans, elle est danoise et elle est la première ministre du pays depuis 6 ans. Mette Frederiksen est membre du Parti social-démocrate, a été élue au Parlement danois en 2001 à l'âge de 21 ans. Elle a occupé les postes de ministre de l'Emploi et de ministre de la Justice et en juin 2019, elle est devenue la plus jeune première ministre de l'histoire du Danemark. Mette Frederiksen mène donc une politique social-démocrate avec tout de même une politique très ferme sur l'immigration. Elle a notamment fait parler d'elle lors de la crise du Covid-19 car elle a pris des mesures très strictes, parfois très controversées, comme l'abattage des visons pour combattre les risques de mutation du virus. Mette Frederiksen est surnommée la Dame de Fer, comme Margaret Thatcher à son époque. Et elle est aussi très souvent comparée à l'héroïne de la série danoise Borgen. Comme elle, Frederiksen est une femme de pouvoir qui a su s'imposer dans un monde politique dominé par les hommes. Bref, concernant le Groenland, territoire autonome au sein du royaume du Danemark, Mette Frederiksen a récemment réaffirmé que le Groenland n'est pas à vendre, en réponse évidemment aux déclarations du président américain Donald Trump. Elle a souligné que le Groenland resterait sous une souveraineté danoise et elle a appelé à une réponse collective de l'Union européenne face aux pressions américaines. C'est aussi pour ça que Frederiksen a entrepris une tournée diplomatique en Europe pour rencontrer notamment le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron, hein, histoire de renforcer le soutien européen contre les menaces américaines concernant le Groenland. Sur Instagram, elle s'est aussi fendue d'un poste à côté de ses trois homologues norvégiens, suédois et finlandais. Une photo prise lors d'un dîner organisé à son domicile. Nous devons nous rappeler que le Danemark n'est pas seul. Nous avons plusieurs alliés très proches avec lesquels nous partageons des valeurs. Mette Frederiksen compte sur le soutien de ses voisins européens pour résister à Donald Trump. Selon le Financial Times, les deux se seraient parlé par téléphone après son investiture et l'appel se serait très très mal passé. Ça promet pour la suite.
Merci Manon. Emmanuel H, elle adopte la bonne attitude, le bon ton, Mette Frederiksen, vis-à-vis de Donald Trump.
À mon sens, oui. Elle adopte le bon ton parce que tout simplement, il faut dire non. Et dans le paysage européen, il y a très très peu de pays quand même qui ont dit non. Il y a la France, il y a l'Allemagne et bien évidemment, il y a le Danemark. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez un petit peu les réactions suite justement au message de Trump, il y a quand même la Russie qui a dit que c'était une rhétorique inadmissible d'aller envahir un territoire.
Ah oui. La
formule était absolument magnifique. Et par contre, la Commission européenne, elle, n'a pas réagi. Donc, je pense qu'il y a une manque de compréhension du personnage Trump et de comment l'aborder.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il est le seul individu dont le bilan carbone est pire que celui de Bernard Arnault et Taylor Swift additionnés. L'Amazonie, le Brésil, les États-Unis, l'Asie, l'Océanie, Dijon. Au total, 76 tonnes de CO2 saupoudrées comme un sagouin tout autour du globe. La conscience écologique sacrifiée sur l'autel de l'hédonisme touristique. Il devrait être rouge de honte, non. Il continue de nous narguer avec son visage identique à celui du père d'Harry Potter. Il paraît même qu'il a commencé à chercher s'il y avait au Groenland des établissements membres de l'alliance Leading Hotel of the World. Bonjour Pierre Courade.
Je préfère le réseau Aman. Bonjour.
Bonjour. Réseau Aman. Alors là, pour nos auditeurs, on est dans un niveau de luxe. Ce qui vous donne une idée du niveau de vie de Pierre Courade. C'est scandaleux. Pierre, après tout ce qu'on s'est dit, résumé en une minute chrono, si c'est encore possible, c'est à vous.
Et aujourd'hui, le Groenland, le mot n'est pas nouveau, il est même plus ancien que le terme agence matrimoniale que Cyril avait découvert il y a à peine 5 mois. Mais il revient au cœur de l'actualité grâce à Donald Trump qui fait du Groenland son objectif numéro 1 pour étendre ses ambitions. Le Groenland, c'est la plus grande île du monde, sous-peuplée, à peine 56 000 habitants. Et surtout, petit détail qui a son importance mais qui ne semble pas trop gêner Trump, le Groenland n'est pas un état indépendant. Il est certes autonome, mais il reste lié au Danemark. En fait, ce qui intéresse le président américain, ce sont les ressources du Groenland, grâce à notre invité, l'économiste journaliste Emmanuel H. On a appris que l'île regorgeait de richesses potentielles dans son sous-sol, du pétrole, du gaz, des terres rares, des ressources potentielles fort peu exploitées actuellement. Mais l'autre avantage notable du Groenland, c'est sa position géographique. Trump met aussi cette particularité en avant dans ses discours. Rappelons que le Groenland est géographiquement situé en Amérique du Nord et ce vaste territoire accueille déjà des bases militaires très importantes pour les États-Unis afin de surveiller les activités des Russes et des Chinois à bonne distance. Bref, pas besoin d'envoyer l'armée américaine pour annexer le Groenland, elle y est déjà. Et si le Danemark cherche des alliés pour défendre son territoire, les Groenlandais, eux, sont plus divisés. Leur volonté indépendantiste pourrait être une aubaine pour Donald Trump, qui offrirait au Groenland indépendant des ressources de revenus, forêt, quitte à accélérer le dérèglement climatique et la fonte des glaces. Ça tombe bien, si je puis dire. Moins de glace, ce sont de nouvelles routes maritimes qui s'ouvrent. Encore une bonne raison pour Trump d'enfiler son anorak et ses boots en peau de phoque.
Oh, Cyril souligne le fait que vous avez dépassé un tout petit peu à
50%,
50%, mais c'était quand même bien résumé. Merci Pierre Courade.
Merci Mathieu.
Comme chaque semaine, il est là, fidèle à lui-même, beau et ténébreux, virulent mais sensible, souriant mais piquant. Bref, rien ne saurait le décrire mieux que sa mère pendant une réunion parents-prof. Ahmed, il est gentil.
Salut tout le monde. Alors avant de commencer, ça va?
Ah oui,
ouais. Mon look vous plaît?
Grave.
Ouais, j'ai taillé la barbe et tout, j'étais obligé. Hein. Ah, j'ai pas envie de me faire traiter d'islamiste par Nathalie Lachouette et compagnie. Hein. Non, ces gens-là, c'est des oiseaux de haute altitude. Hein. Et qui dit haute altitude dit cerveau moins oxygéné. Du coup, très teubé, du coup, très raciste. Ah bah, je fais comme eux, hein, je fais des raccourcis. Hein. Donc, je voudrais commencer cette chronique par une pensée pour mon collègue Merwan Ben Lazar, qui subit une vague de harcèlement en ligne depuis qu'il a fait une chronique dans C'est à vous. Vraiment. Ça m'a vraiment mis un coup parce que ça montre à quel point dans ce pays, personne ne regarde Zoom Zoom Zen, en fait. Non, mais ça fait 5 mois qu'il est là, il fait des chroniques, personne n'a réagi. On est moins regardé qu'un repas avec Babette sur France 5. La honte. Le Groenland. Donald Trump le veut. Pourquoi? Plusieurs hypothèses. Ça lui manque de jouer aux cow-boys et aux indiens, et comme il n'y a presque plus d'indiens, voilà, il s'est dit, les Inuits, c'est des indiens des neiges, ça peut passer. Alors c'est ça, ou alors il veut plus de glaçons dans son coca. Lui, il a regardé le planisphère, il a vu un gros glaçon pas loin, et s'est dit, je vais prendre ça. En plus, il y a des ours polaires, c'est Coca-Cola, Coca-Cola, c'est nous, donc Groenland, c'est nous. Je vous ai dit, hein, oiseau de haute altitude. Heureusement qu'il regarde pas C'est à vous, Trump, je vous le dis. Non, mais il faut pas le laisser prendre le Groenland. Il va meubler ça n'importe comment, ça va être de mauvais goût. Il va construire un grand igloo casino avec écrit Trump. Il va ramener son pote Elon Musk, il va faire des saluts problématiques et se justifier bizarrement. Il va dire non, mais j'ai pas dit hi, j'ai dit hi all. Bonjour à tous, je l'ai juste dit un peu vite en envoyant mon cœur de façon agressive. Et l'accent, c'est parce que je viens d'Afrique du Sud. Donc arrêtez de dire que c'est allemand, vous allez provoquer ma fureur. Là, Trump, il reçoit Netanyahou, il va pouvoir lui demander des tips sur comment grappiller des terres. Trump qui demande conseil à Netanyahou, c'est Carlos Ghosn qui se fait conseiller par les Balkany. Ouais, cette nuit, il a dit, il veut faire de Gaza la nouvelle Côte d'Azur. Désolé, j'ai pas trouvé de blague à cette phrase, voilà, c'est quand même exceptionnel ce qu'il dit. Ça fait longtemps que les Américains, ils veulent le Groenland. En 1910, ils avaient proposé aux Danois, ils ont dit, on vous donne des îles, vers les Philippines, vous nous donnez le Groenland. Donc en fait, pour les Américains, les humains, c'est des cartes Pokémon, en fait. C'est une annonce, le bon coin. Bonjour, échange 2 îles tropicales contre territoire glacé, prix négociable et frais de port à ma charge. En 1946, ils ont quand même essayé de racheter le Groenland au Danemark pour 100 millions de dollars. Voilà, c'est moins cher que Mbappé, hein, faut le savoir. Ah, c'est fou. Ouais. En tout cas, vu que Trump voit le monde comme une liste Century 21, ouais, ça risque de changer ses visites diplomatiques, hein, c'est vrai. Hein. Plus personne voudra lui montrer les bons côtés de son pays, de peur qu'il veuille l'acheter. Ah, il va venir en France, on va l'accueillir à Melun. Voilà, vous avez la gare, là vous avez la mairie, là c'est Lidl. Voilà, ça vous intéresse? Non? Oh, dommage. Allez, bonne soirée. Voilà, en tout cas, dites à Trump qu'un territoire froid avec des roues dedans, ça existe déjà et ça s'appelle Poudlard. Merci de m'avoir écouté, messieurs dames.
Merci beaucoup, Ahmed Sparrow. On retrouve la semaine prochaine, évidemment, mercredi, dans Zoom Zoom Zen. Merci, Emmanuel H. de nous avoir éclairé sur les enjeux multiples, on l'a compris, autour du Groenland. Je rappelle que vous êtes adjoint scientifique à IFP Énergie Nouvelle. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à tous. Vous, pas un geste, hein, comme disait Ottawa. Oh là là. Oh là là. Oui, vous le sentez, la deuxième heure de Zoom Zoom s'annonce riche musicalement.
C'est la fierté dans vos yeux. On vous lance ça.
C'est ça qui vous dégoûte le plus, je pense.
C'est terrible.
Mais sur le fond aussi, ça sera pas mal puisqu'on va évoquer le business inquiétant de l'Ozempic, ce médicament pour diabétiques totalement détourné de son usage. Les coulisses du tournage des Tuches 5 racontées par le quotidien Nord Littoral. Emilia Pérez dans la sauce à un mois des Oscars. Et puis surtout, je crois qu'on peut arrêter Ottawa, même si j'adore. Hein, j'ai envie de me trémousser. Je sens le groove monter en moi. Néanmoins, on peut couper cette musique. On zoomera sur la fine fleur de la fiction française, direction Luchon, à l'occasion de l'ouverture du festival Fiction et Documentaire que nous réserve 2025. Est-ce que vous savez qui sera avec nous tout à l'heure ?
Quentin ?
On doit meubler, non ?
Non, mais...
Pas du tout, pourquoi vous dites ça ?
Je sais pas.
Ouais, c'est un grand producteur français.
Ah
Un immense producteur français.
Quentin l'a comparé à Thomas Croisière tout à l'heure.
Thomas Croisière ? Ah non, peut-être pas. Il va parvenir.
Mon Dieu, mais vous faites des comparaisons audacieuses. Mais non, Capital sur M6.
Emmanuel Chin.
Production de 7 à 8 sur TF1. Emmanuel Chin sera avec nous. Et c'est lui aussi qui produit Les Tuches 5.
C'est vrai.
Zoom Zoom Zen.